Je viens d'assister, il y a la semaine passée, à une colloque sur la philosophie des techniques. C'était une colloque internationale avec une centaine de contributions. Et tout le monde, il y avait des gens de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis, tout le monde voulait parler de l'intelligence artificielle et la robotique, le transhumanisme, des thèmes à la mode. Et moi, je cherchais quelque part des contributions sur l'écologie, sur le changement climatique, parce qu'il me semble que c'est ça qui est vraiment important aujourd'hui, beaucoup plus que les voitures automatisées. Je ne trouvais pas de contribution sur le changement climatique, et ça m'a choqué. C'est quand même pas simplement une question pratique, hein, c'est d'un point de vue théorique, c'est très intéressant. Par exemple, la distinction entre la nature et la culture s'estompe dans le cadre du changement climatique. Le climat, c'est un phénomène naturel, mais qui est complètement colonisé maintenant par l'humanité, par la culture. Il y a aussi la question des rapports entre la science et le public, qui change d'une façon étonnante. Normalement, on pense à des mouvements politiques, par exemple, le mouvement ouvrier, c'est la base du mouvement, c'est l'expérience personnelle des individus qu'ils interprètent à partir du bon sens disponible dans leur culture. Mais aujourd'hui, on peut pas travailler comme ça, on ne peut pas penser comme ça. Pour interpréter son expérience du climat, par exemple l'été hivernal de Cérisy, on fait référence à la science du climat. Et donc, l'interprétation de l'expérience, maintenant, passe par la science. Et il y a aussi des rapports réciproques. La science du climat est organisée autour de seuils. 2 degrés, c'est le seuil hein, qu'il ne faut pas dépasser. Et toutes les recherches sont orientées vers ce seuil. Mais d'où vient ce seuil? Il n'est pas un phénomène naturel. Hein. Il n'y a rien dans la nature qui préfère 2 degrés à 3 degrés à 1 degré. C'est purement humain, ça. C'est politique. C'est une question politique. Et donc, les rapports entre science et public ne sont plus les mêmes. Au moins, il y a une exagération de tendances qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas aussi fortes. Alors, comment parler alors de ces phénomènes? Une proposition qui est très populaire, c'est d'introduire une nouvelle terminologie, de dire qu'aujourd'hui, on a affaire à, non pas à la science et à la technologie, mais à la technoscience. Technoscience, c'est une sorte de mixte de science et technologie qui inextricable. C'est un concept intéressant qui correspond plus ou moins aux deux phénomènes que j'ai mentionnés, la disparition de la frontière entre nature et culture et entre science et public. Mais c'est un concept qui est surtout polémique. Ce concept est devenu populaire il y a 20 ans à peu près, surtout dans les milieux des science and technology studies et chez les humanistes, comme concept critique pour échapper à l'emprise positiviste et l'idée d'une science qui pure, non pas influencée par la société, mais la recherche pure de la vérité. C'était un concept polémique introduit pour cette raison. Et aujourd'hui, il nous faut quelque chose d'un peu plus précis, je crois, parce que la polémique est finie. Maintenant, personne ne croit plus au positivisme classique, c'est fini, cette histoire de la science pure. Et il nous faut quand même une façon de parler de ces phénomènes dont je viens de mentionner. Et je pense que le terme technoscience peut être utile, mais il faut le donner une définition beaucoup plus précise et sortir de l'utilisation polémique du concept. Alors ça, c'était vraiment des préliminaires pour annoncer mon propos principal. Donc, je vais commencer maintenant avec la matière de ma conférence. Je vais commencer avec deux histoires. C'est des histoires de Thalès, le philosophe, le premier philosophe. Parce que dans l'histoire de la vie de Thalès, il y a deux sciences, deux idées de la science qui sont présentes. Il y a d'abord l'histoire de Thalès qui regardait le ciel en marchant et qui est tombé dans un fossé. Bon, alors il y a une vieille dame qui passe par là, qui ricane et qui dit « Monsieur, comment vous allez comprendre le ciel quand vous ne voyez pas ce qui est devant vous ?» Alors ça, c'est une image de la science comme purement... C'est la science pure, séparée du monde quotidien. Hein. C'est le tour d'ivoire, la scientifique dans son tour d'ivoire. C'est Einstein avec des cheveux comme ça. Ça, c'est une image de la science qui est déjà présente dans cette histoire sur Thalès. Mais il y a une autre histoire. C'est l'histoire de l'étude du climat. La première étude de climat dont on a des nouvelles, Thalès a étudié le climat de sa ville et il a prévu une récolte formidable d'olives dans l'année qui allait suivre. Et il avait tellement confiance dans sa prévision qu'il a loué tous les presses d'olives dans la région. Et quand la récolte est arrivée, exactement comme il avait prévu, tout le monde avait besoin de presses d'olives et c'est lui qui les avait en monopole. Alors il a pu les louer à grand prix et a fait fortune. Alors ça, c'est la science d'aujourd'hui, hein, c'est la science entrepreneuriale, la science qui fait l'alliance avec le commerce, c'est l'innovation, hein. C'est le mot magique, hein, innovation. Cette histoire de Thalès annonce déjà la transformation de la science, de l'événement qui se passe dans le Tour d'Ivoire à l'événement qui se passe dans le marché. Alors ces deux histoires sont importantes, pas simplement en tant qu'image plus ou moins idéologique de la science, mais aussi pour des effets réels dans le monde. Parce que ces images de la science sont des forces sociales et pas simplement des idées. Et je vais raconter plusieurs histoires pour vous montrer ça. D'abord une histoire personnelle et ensuite une histoire politique pour parler de la confusion qui règne dans le domaine réel de la science à partir de ces deux images. L'histoire personnelle concerne l'expérience de mon père, qui était physicien théorique, et donc il pratiquait la science qui était, pour les positivistes, le paradigme de la science. Hein. Purement mathématique, très distant par rapport à la technologie, même à l'expérimentation, que c'était quelque chose de loin. On avait des données, mais on ne faisait pas d'expérience et on était théoricien. On avait un papier, on écrivait des équations. Alors, c'était la science pure. Alors, il était parmi les jeunes physiciens qui étaient envoyés en Allemagne pendant les années 30 pour apprendre la mécanique quantique. Aux sources, parce qu'aux États-Unis, il y avait très peu de monde qui pouvait l'enseigner. Et à l'époque, on ne savait pas qu'on préparait les États-Unis pour la guerre. Quand il est rentré, il enseignait à New York, et un jour, en 1942, 1943, un collègue est venu pour lui demander où il pouvait parler avec lui dans une intimité absolue. Donc ils sont allés sur le 3 de l'immeuble, où il n'y a plus personne qu'eux, hein, personne ne pouvait écouter ce qu'il disait, et le collègue lui a proposé de travailler sur la bombe atomique. Et pour des raisons qu'il n'a jamais expliquées, mon père a refusé. Il est allé s'inscrire dans l'armée tout de suite après, mais ils l'ont refusé de l'accepter, ils l'ont envoyé travailler sur le radar. Donc au lieu de travailler sur un instrument offensif, il a travaillé sur un instrument défensif. Ça, c'était pour lui peut-être préférable. Il a fait des découvertes, il a amélioré les tubes utilisés dans le radar qui s'appellent des clistrons. Il a breveté des inventions pour l'améliorer. Et ça c'était son service de guerre en tant que scientifique. Alors c'est déjà un peu étonnant hein, qu'un scientifique peut se recycler aussi rapidement de théoricien en ingénieur, mais il l'a fait. S'il était professeur de français, ça serait plus difficile. Hein. Alors, 10 ans plus tard, quand j'avais à peu près 10 ans, il a été invité à Stanford où les scientifiques travaillaient sur la création d'un accélérateur de particules qui utilisait les clistrons. Les clistrons étaient inventés à Stanford et ils utilisaient les clistrons pour accélérer les particules. L'accélérateur existe toujours, ça s'appelle SLAC, le Stanford Linear Accelerator. Et ils ont fait des découvertes hein, en accélérant les particules aux vélocités, surtout je crois au début des électrons, à des vitesses relativistiques on dit. Alors il y a deux choses qui m'intéressent dans cette histoire. En dehors du fait que moi aussi j'ai assisté à l'époque avec les autres fils et filles des physiciens à un club de construction de radio cristal et on a arrangé ça pour écouter des signaux radio. Alors les pères travaillaient avec les clistrons, les enfants avec les cristaux. Mais alors, en dehors de cet détail personnel, ce qui est intéressant, c'est d'abord que la théorie et la pratique étaient si bien, avaient un rapport si intime qu'un physicien théorique pouvait passer d'un domaine à l'autre sans difficulté. Il pouvait utiliser les outils de sa pratique théorique pour créer des artefacts, hein, dans ce cas des clistrons. Ça, c'est intéressant. Hein. Ça montre à quel point la physique, déjà longtemps avant l'invention du terme technoscience, était complètement impliquée dans la technique. Et d'autre part, ces mêmes clistrons étaient utilisés pour faire des découvertes. Donc, on faisait la guerre et on faisait des découvertes avec les mêmes instruments, avec les mêmes cultures intellectuelles. C'est étonnant. Il y a une telle proximité de toutes ces choses-là qu'on voit très bien la justification du concept de technoscience. Mais en même temps, il y a une chose un peu étrange. Pour mon père et sa génération, la science était pure. Ils étaient sûrs que la science était pure. Donc le fait que leur expérience contredisait absolument ce qu'ils pensaient, ça n'avait aucune importance. Hein, parce qu'ils avaient une idée de la science qui venait d'où ? Qui venait peut-être du 19e siècle, hein, de l'invention de l'université moderne, de recherche et la création de disciplines isolées de la société en général, dans les tours d'ivoire. Hein, parce que ça, c'est les vraies tours d'ivoire, hein, c'est les universités de recherche où on avait le droit de poursuivre la vérité en dehors de toute considération commerciale. Et là encore, il y a un paradoxe, parce que c'est la même époque où il y a beaucoup d'inventions faites par des scientifiques. Pasteur et ses vaccins, comment ça se dit en français, dye, hein, pour la couleur des... Les teintures, oui, inventées en Allemagne par des chimistes. Donc la science pure était, dès le début, alliée avec l'industrie. Mais en même temps, l'idéologie de la science était cette idée de la tour d'ivoire. Alors pourquoi ? Alors voilà, il y a une deuxième histoire. Cette histoire est politique pour essayer d'expliquer ce qui se passe. ça arrange les scientifiques d'être en dehors de l'histoire, en dehors de la société, en dehors du commerce. Ça les arrange parce que ça les libère des contraintes de l'histoire, de la politique et du commerce. En même temps, ils veulent bien intervenir quand ils peuvent, sous leurs conditions propres, hein, les conditions qu'eux, ils établissent. Mais donc c'est une sorte d'arrangement un peu illégitime, hein, en soi, hein, contradictoire. Mais ça a marché pendant assez longtemps. Hein. Les scientifiques, à la fin du 19e siècle, dans leur tour d'ivoire, étaient indépendants et pouvaient faire des découvertes en suivant leur curiosité. Ils n'étaient pas contraints par la société de servir dans des projets des hommes politiques ou des commerciaux. Et en même temps, ça leur convenait, ils pouvaient faire de l'argent en travaillant avec l'industrie. Cette contradiction devient critique après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que là, ce n'est plus possible de financer, hein, la contradiction. Ça devient une question politique d'actualité après la guerre. Pourquoi ? Parce que les militaires américains ont compris. La guerre a été gagnée en partie, évidemment, pas seulement, mais en partie par la science. Hein. Il y a trois inventions qui ont été critiques pour la victoire. La bombe atomique, le radar et la cryptographie. Et je crois que des alliés auraient pu gagner sans ces trois inventions, mais quand même, ça a vraiment impressionné les militaires. Ils voulaient encore plus d'inventions formidables pour gagner les guerres. Et surtout qu'ils étaient en conflit avec l'Union soviétique. Et ils savaient très bien que ce conflit serait gagné par celui qui avait les meilleures bombes. Hein? Les inventions nouvelles qui allaient donner le pouvoir sur le champ de bataille. Et donc, ils sont allés au Congrès, les militaires sont allés au Congrès, ils ont demandé qu'on crée des institutions pour financer la science et pour le rendre utile pour les militaires. Mais ces institutions étaient un peu sur le modèle de Los Alamos, où il y avait un général qui était le chef, et Oppenheimer, le général Groves, Oppenheimer, le scientifique, était en quelque sorte son adjoint opérationnel. Il y avait le secret absolu, il y avait beaucoup d'investigations, de surveillance des scientifiques, de cloisonnement des différents groupes de scientifiques qui ne pouvaient pas communiquer. Il y avait un sentiment de malaise, hein, parce que tout ça contredisait les pratiques traditionnelles de la science. Et ça a exposé les scientifiques à des risques pénals. Et donc, les scientifiques, quand ils étaient informés des projets des militaires, étaient furieux. Et ils se croyaient maintenant assez importants pour résister. Et ils ont effectivement résisté. Ils ont trouvé des sénateurs pour soutenir leur position. Et ils ont créé le système actuel, qui aussi existe en France, je crois, où les subventions des scientifiques passent par l'administration des universités et non pas par des généraux de l'armée. Ce système a permis, c'était basé sur l'idéologie de la science pure. Hein. L'idée, c'était que la recherche de base aurait des effets formidables un jour pour les militaires. Mais il ne fallait pas, surtout pas, chercher à forcer les scientifiques de faire des progrès dans l'industrie des armements. Ça serait de tuer le... Comment ça se dit en français ? Le poule aux deux... Oui, c'est ça. Ce poule, il fallait le caresser, le protéger... Et on faisait ça en le laissant dans sa cage à l'université où il était très content de travailler pour le bien de l'humanité avec des retombées militaires intéressantes promis pour l'avenir. Hein? Alors, donc, l'idéologie de la science pure, avait une fonction historique, politique, très claire. Hein. C'était protéger les scientifiques de l'embrigadement dans le système militaire qui leur était promis après leur réussite avec la bombe atomique. Alors, aujourd'hui, on a dépassé ce stade. Maintenant, la science n'est pas l'esclave des militaires, mais plutôt des hommes d'affaires. Il y a un changement de paradigme. La physique théorique n'est plus le paradigme de la physique, de la science aujourd'hui, c'est la biologie. La recherche pharmaceutique se fait dans les contextes commerciaux où les scientifiques ils souffrent peut-être pas des pénalités extraordinaires que les militaires voulaient les imposer s'ils parlaient trop, mais d'autres inconvénients du monde commercial, le secret, la tromperie, la fraude. Il y a beaucoup de problèmes avec la science biologique à cause de l'intervention des commerciaux. Mais en même temps, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Et ça, c'est essentiel pour le progrès scientifique dans le domaine de la médecine. Donc, on peut se plaindre. En même temps, il faut quand même reconnaître ce qui se passe. Mais les gens qui ont créé les Science and Technology Studies pendant les années 70, 80, ils vivaient dans un monde très différent du monde de mon père. Ils vivaient dans un monde où ça commençait à être visible, cette capture commerciale de la science. Et donc, quand ils introduisent le terme de technoscience, ils ont l'impression de répondre à la réalité qui devient de plus en plus visible et évidente. Et ils découvrent dans le passé de la science des choses dont je viens de parler, hein, qui montrent qu'il n'y a jamais eu de science pure. Et ils sont très fiers d'avoir pénétré l'idéologie de la science pure. Le positivisme meurt assez rapidement de désintérêt, de réfutation et de désintérêt. Il n'existe presque plus dans les départements de philo. Quoique, quand j'étais étudiant, tout était positiviste, c'était l'idéologie dominante dans les départements de philo. J'ai fui, je suis venu en France pour étudier le marxisme avec Lucien Goldman et la phénoménologie avec Derrida. Donc, ça c'est intéressant, toute cette histoire, mais derrière il y a quelque chose qui est plus fondamental, qu'il faudrait comprendre. Parce que si la science et la technique sont si liées, il y a sûrement quelque chose de plus fondamental que ces événements dont je viens de raconter pour l'expliquer. Quelle est la base de cette communauté scientifique technique? Il y a des philosophes qui ont essayé de comprendre ça en essayant une analyse de la science non positiviste, mais qui relie la science et la technique à la base. Et je donne ici deux exemples qui sont apparentés. Il y a Heidegger et Marcuse. Je n'ai pas étudié avec Heidegger, mais j'ai étudié avec Marcuse. Et donc, cette tradition, c'est en quelque sorte la mienne. Et je trouve qu'il y a là-dedans quelque chose d'important pour mieux comprendre l'idée de technoscience et ce qui se passe dans la science aujourd'hui. Alors, je commence avec Heidegger parce que c'est lui qui a, pendant les années 40 et 50, a proposé une version de la théorie de la technoscience, sans utiliser le terme, qui a eu beaucoup d'influence. Je ne suis pas heideggerien et je ne vais pas vous expliquer que Heidegger a inventé toutes les choses brillantes qu'il a dit, mais il a quand même fait passer le message, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été influencés par ses essais sur la technique et la science et la technique publiés pendant les années 50. Chez Heidegger, il y a un concept qui n'est pas très clair, mais que je crois qu'on peut expliquer sans difficulté, un concept de construction de l'objet. C'est une idée kantienne qui prend sans doute chez son environnement néo-kantien de sa jeunesse et qui persiste à travers son œuvre, quoi qu'il le déguise, il l'interprète d'autres façons. Mais l'idée de la construction de l'objet, ça vient de Kant, et je suis sûr que vous avez tous lu la critique de la raison pure. L'idée principale est facile à résumer parce qu'il est entré dans la culture générale sous le nom de culture. Et cette idée, c'est que les objets ne sont pas donnés immédiatement, mais ils sont médiatisés par des concepts. Donc quand on regarde une table, on ne voit pas un simple donné sensuel, hein, visuel, mais il y a aussi le concept de table qui intervient et qui nous permet de voir la chose en tant que ce qu'il est, c'est-à-dire une table. C'est évident pour nous, hein, tout ça c'est simple, hein, parce que nous vivons avec 200 ans d'histoire entre nous et Kant, hein, mais c'était très mystérieux à l'époque. Hein. Mais par exemple, un chien, il ne voit pas une table. Il voit quelque chose, mais ce n'est pas une table, parce que table, c'est un concept. C'est un concept de l'esprit humain qui est imposé sur les sensations qui nous livrent le phénomène. Alors cette idée, Kant l'a développée d'une façon très rigoureuse, très formidable, mais il attribue les concepts à l'esprit humain. Et il attribue des concepts spécifiques qui sont essentiels à l'expérience en général. Donc, c'est spirituel, c'est mental, hein, ces concepts qui interviennent entre nous et les sensations immédiates, ils sont mentaux et ils sont éternels, hein, essentiels. Alors, cette idée des concepts, de la conceptualisation des données de l'expérience, arrive à la fin du XIXe siècle dans le néo-kantisme avec une charge historique. Parce qu'on commence à penser un terme historique après Hegel et l'invention de l'anthropologie, de la sociologie, on commence à repenser ces concepts sous une forme historique et on imagine alors non pas la mentalité universelle de l'homme, mais plutôt la culture historiquement évoluée. C'est la source des concepts qui médiatise la perception. Cette idée devient une idée qui est généralement disponible. Hein. On n'a pas besoin de lire la critique de la raison pure pour comprendre. Et donc, vous êtes excusé. Chez Heidegger, ça prend une forme spécifique. Il demande quel est l'objet de la science. Quel est l'objet de la science? Mais cet objet n'est pas simplement le monde. C'est un phénomène construit par une culture, quoiqu'il n'utilise pas le mot culture, une culture historique. Et chaque époque aura son propre expérience, son monde propre, qui sera différent et qui donnera lieu à une science différente. Et dans le cas du monde moderne, il y a un contraste qui l'intéresse beaucoup entre notre science et la science antique. Alors, dans son essai sur la technologie, il commence en discutant la science antique, la technologie antique, et il explique comment c'est différent. Les objets pour les Grecs, dit Heidegger, ne sont pas les mêmes que nos objets à nous. Ces objets sont vivants. Leur modèle de l'objet en général, c'est la vie. Et la vie s'auto-construit. Autopoésis, oui, l'autopoésis caractérise l'objet grec. Déjà, hein, nous avons redécouvert ce que les Grecs savaient déjà, Et les Grecs prennent ça tellement au sérieux qu'ils imaginent que dans chaque chose, il y a une essence qui contient ses potentiels qui seront réalisés dans le cours du développement de la chose. Et c'est ça le kinésis grec. Ce n'est pas le mouvement dans l'espace, c'est le mouvement dans le temps, hein, la réalisation du potentiel. Et cette idée est tellement prenante pour les Grecs qu'ils l'attribuent même aux artefacts. Les artefacts, ont quand même, ils ne peuvent pas s'autoproduire comme la vie, mais ils ont un potentiel qui est réalisé avec un peu d'aide d'un artisan. Alors l'artisan ne fait que ouvrir la chose à sa destinée, hein, le permettre de... Alors Heidegger dit dans un texte sur Aristote que le potier donne une forme à l'argile, ou plutôt il permet à l'argile de perdre son manque de forme. C'est un peu comme l'idée de l'histoire de Michel-Ange. Hein. On lui demande comment vous faites le statut de David avec ce bloc de marbre. Et Michel-Ange répond, j'enlève tout ce qui n'est pas David. Donc l'artefact ressemble à la chose vivante, mais il a besoin d'un peu d'aide, hein, pour se réaliser. Alors ça, c'est une conception qui donne une science complètement différente de la nôtre. Hein. Cette science, on l'a chez Aristote, hein, la physique d'Aristote, qui est une science descriptive, qui n'est pas basée sur l'expérimentation, sur la manipulation de la nature, mais sur l'observation, et qui essaie d'identifier les potentiels des choses, plutôt que de les réduire à des éléments. Heidegger fait le contraste entre cette science antique et la science moderne. L'objet de la physique, c'est la matière en mouvement. C'est une matière réduite à des éléments mesurables, quantifiables. Et donc, on extrait toutes les parties qui intéressent Aristote, hein, et qui donnent lieu à des concepts d'essence ou de potentialité, pour ne laisser que ce qui peut être mesuré. Et sur cette base, la science projette un monde qui consiste à des objets quantifiables et manipulables. Et donc ça devient la réalité pour la science moderne. L'élimination de potentialité rend les objets complètement, ils soumettent les objets complètement à la volonté humaine. Parce que, puisque les objets n'ont pas de potentialité propre, ils ne répondent qu'à les projets des humains qui les dominent par les moyens techniques. Alors c'est une construction du monde, pas simplement, donc Heidegger ne parle pas simplement de la science et de la technologie, mais du monde moderne. C'est une construction du monde généralisé dans la culture, ce que nous appelons la culture moderne. Heidegger est critique par rapport à ça, mais d'une façon un peu compliquée. Il ne doute pas de la pertinence des résultats des sciences. Hein. Il ne nous raconte pas qu'il faut abandonner la technologie et retourner à la vie pré-technologique. Donc sa critique est surtout une critique d'une mentalité, d'une façon de penser et de vivre le monde. Et la science est peut-être à l'origine de ça, ou il est central pour son analyse, mais ce n'est pas la science qui est le problème, c'est nous. Et la façon dont nous apprenons, dont nous médiatisons notre expérience par les concepts qui sont ceux de la science. Et donc c'est une critique de la modernité, mais sans issue. Parce que Heidegger, l'histoire chez Heidegger, c'est l'histoire de l'être. C'est une histoire qui n'a pas de source politique, sociale, économique. C'est mystérieux, hein? Sa source, c'est l'être. Et il nous raconte pas vraiment ce que c'est. Hein? Donc, il n'y a pas d'issue. Et il dit dans son dernier interview, « Seul un Dieu peut nous sauver. » Ce n'est pas une perspective très positive, hein? Très optimiste. Ça. il faut attendre un Dieu, c'est-à-dire une nouvelle dispense par l'être. Je vais maintenant parler de la façon dont Marcuse a transformé cette thèse de Heidegger sur la science, la technoscience, en théorie politique. Parce que Marcuse était un marxiste. Il est allé étudier avec Heidegger parce qu'il a lu L'être et le temps. Mais juste avant, il a participé à la Révolution allemande. Et il m'a raconté qu'il a été pris par l'armée il avait peut-être 20 ans, 21 ans. Il a été, inscrit dans... Conscrit, oui, il a été conscrit juste au moment où les conseils militaires des soldats à Berlin se formaient. Et donc, au lieu d'aller au front, il est allé au soviet des soldats de Berlin. Et là, il a observé une chose qui l'a choqué. La première tâche des soldats, c'était d'élire des nouveaux officiers, nouveaux officiers. Et ils ont réélu tous les vieux officiers prussiens. Alors, c'est là où il a compris qu'il y avait peut-être des problèmes, hein, des difficultés avec la révolution socialiste. Et donc, il a travaillé pendant plusieurs années. Et quand il a lu L'être et le temps de Heidegger, il était inspiré. Il est retourné à l'université pour essayer de devenir professeur de philo. Mais ce qui est curieux, c'est que quand on lit les textes qu'il a écrits à l'époque, qui sont recueillis sous le nom de Heidegger Marxismus, il est très critique par rapport à Heidegger. Et en même temps, il tire sur les concepts de Heidegger, comme les concepts de Dasein, de monde, d'authenticité. Il tire ces concepts dans une direction marxiste. C'est assez étrange et très intéressant. Alors plus tard, beaucoup plus tard, 30 ans plus tard, quand il est aux États-Unis et il est maintenant prof d'université à Boston, il écrit un livre qui s'appelle « L'homme unidimensionnel ». Et dans ce livre, il y a deux chapitres qui sont une réponse directe, sans le nommer, de l'essai sur la technique de Heidegger. C'est curieux, hein? Ces deux chapitres, le chapitre 5 et 6 de l'homme unidimensionnel, c'est une reconstruction des idées heideggeriennes et husserlien, parce qu'il était aussi influencé par Husserl, dans un contexte tout à fait différent. Alors, comment ça marche? Il accepte l'idée que la mentalité moderne réduit tout à des ressources disponibles pour le contrôle technique. Ça, c'est ce qui se passe actuellement, dit-il, dans l'homme unidimensionnel. Les essences sont liquidées, les potentiels liquidés, et les choses sont purement passives, ils sont là à attendre à ce qu'on les manipule. Et c'est ça qui apporte le problème, parce que les hommes eux-mêmes sont incorporés dans ce fond de ressources. Bon, ça, c'était j'aurais dû le dire avant, ça c'était la critique de Heidegger, c'est que l'homme lui-même devient ressource, une sorte d'objet technique. Et on n'a pas besoin de robots, hein, on est déjà robotisé à tel point par la modernité que l'invention est inutile. Marcuse lie cette évolution au capitalisme. C'est le capitalisme qui réduit tout à des objets de commerce et donc d'action technique. Ce n'est pas l'histoire de l'être, mais l'histoire du capitalisme qui est responsable de la construction actuelle de la modernité et de la mentalité moderne. Et si on reconstruit l'analyse heideggérienne de cette façon-là, on imagine tout de suite un dépassement. Hein, parce que le capitalisme, au moins à l'époque, en 1964, quand Marcuse a publié L'homme unidimensionnel, le capitalisme avait une histoire finie. Hein? C'était avant que... C'est Jameson, je crois, qui a dit que c'est plus facile maintenant pour nous aujourd'hui d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Mais en 64, on imaginait très bien la fin du capitalisme. Ça s'appelait le socialisme. Il y avait des mouvements politiques, il y avait l'Union soviétique, il y avait beaucoup de raisons de croire que le capitalisme était un phénomène fini qui serait dépassé. Ce dépassement pourrait libérer des forces de la nature, des forces qu'on pourrait appeler des potentialités favorables à la civilisation humaine et au développement des humains, supprimés par le capitalisme. Et donc il y a chez Marcuse une sorte de retour à l'idée grecque de la potentialité, du techné grec, qui n'est pas complètement contingent, dépendant de la volonté humaine, mais qui a une source dans la réalité, qui donne une orientation à une action positive, une action progressiste. Mais à la fin du livre, il en parle, il essaie de construire un modèle d'une autre façon de comprendre le monde, une autre construction de l'objet, hein, différent du concept moderne que lui et Heidegger avaient identifié avec la science. Mais il y a beaucoup d'ambiguïté à la fin du livre. Et c'est difficile aujourd'hui d'accepter la conclusion de Marcuse. Il imagine l'intervention de l'art dans la science pour pouvoir produire une idée de potentialité. En même temps, il tire sur Simondon des idées sur la finalisation des technologies, une façon d'éviter une solution spirituelle, d'imaginer la technologie transformée dans sa conception même pour qu'il réalise directement des finalités humaines, mais ce qui suppose la libération de la technique de l'organisation capitaliste du système de production. Intéressant ce qui se passe à la fin du livre, mais ça laisse quand même beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de doutes. Et je pense qu'il y a une raison pour ça, c'est justement l'absence de mouvements sociaux qui permettrait de comprendre, d'imaginer une transformation de la science et de la technique. Et donc il était là devant l'idéologie de la science pure, dans une société où la technique était supposée être une application de la science, et il luttait contre ces concepts en essayant de donner un aspect social à la science et à la technique, hein, en les rapportant aux impératifs du capitalisme. Mais ça restait très abstrait. Hein. Et justement parce qu'il n'y avait pas de mouvements sociaux qui pourraient montrer une voie plus concrète, plus empirique pour discuter des limites et des possibilités. Je pense que l'art semblait, ça c'est la tyrannie de l'art dans l'imaginaire allemand connu, hein, l'art intervient comme solution déjà tout prête, hein, depuis la Hochkunst du XVIIIe siècle, hein, pour les Allemands, mais je ne pense pas que ça soit la bonne voie. Mais en même temps, je reconnais quelque chose dans l'analyse de Marcuse et qui vient en partie de Heidegger, c'est cette idée de la potentialité comme alternative. La potentialité comme phénomène objectif qui peut orienter l'action et la recherche et l'invention vers des solutions favorables à l'humanité. C'est une solution, disons, aujourd'hui, on pense en termes, en éthique, en termes conséquentialistes, on dit en français, ou déontologiques. C'est les deux façons d'éviter le concept de potentialité, qui semble prémoderne. Hein. Ou bien ça rend le peuple heureux, ou bien ça concerne ses droits et ses devoirs. Mais en aucun cas, ça concerne son essence même qui a besoin de se développer librement et de fleurir. Ça, c'est une idée prémoderne qu'on ne peut pas accepter. Mais pour Marcuse, c'est l'essence même de la solution du problème. Quoique sa façon d'imaginer les essences n'est peut-être pas crédible aujourd'hui, l'idée qu'il y a des potentiels qui doivent être favorisés par le développement scientifique et technique, c'est pas tellement bête, hein. C'est même si on n'a pas une façon de le développer philosophiquement d'une façon convaincante, c'est quand même évident, hein. C'est une des choses qui sont évidentes mais qui sont difficiles à expliquer, hein. On sait parce que par l'expérience, par exemple de son propre développement personnel, par l'expérience avec les enfants, par le jardin, on est entouré d'essences et de potentiels qui se développent. Aristote n'était pas bête, hein, il n'a pas inventé ça à partir de rien. Il a observé le monde. Et nous aussi, quand nous observons le monde, nous voyons exactement la même chose. Le problème, c'est d'imaginer une construction des objets de l'expérience en général à partir de ce concept qui semble métaphysique, hein. J'ai réfléchi beaucoup sur ce problème. Je n'ai pas une solution métaphysique au problème métaphysique. J'ai une autre façon de le penser en fonction des interactions entre la science et le public, la culture et la nature. Je reviens à ces thèmes du début. Et j'ai approché ça en fonction de ce concept de technoscience, en essayant de donner une définition de la technoscience utile et intéressante, pas simplement polémique dans la lutte éternelle contre l'erreur de Tour d'Ivoire, qui, pour moi, c'est fini, hein. C'était déjà fini quand j'étais enfant, parce que je savais très bien, de par le laboratoire de mon père, que la science et la technique étaient liées. Mais je crois que c'est maintenant, cette idée est généralement abandonnée. Alors, j'ai eu cette idée, une idée de comment faire une définition utile du concept de la technoscience en lisant un livre sur la fusion froide. Vous savez ce que c'est ? C'était un truc extraordinaire. Il y a 20 ans à peu près, deux chimistes ont découvert la fusion froide. Ils ont fait la fusion entre hydrogène et des atomes d'hydrogène dans un bassin avec des électrodes, et ils ont produit de l'énergie par la fusion. Mais normalement, pour que la fusion se fasse, pour que les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, il faut des températures dans des dizaines de millions de degrés. Mais eux, ils l'ont fait dans un bassin d'eau aux températures de la pièce, hein, avec des électrodes spéciales. Bah, c'est formidable, hein. C'est tous les problèmes du monde résolus instantanément, hein. On n'a qu'à ajouter de l'eau. L'université de Utah, où ils travaillaient, étaient très excités et ils ont organisé une conférence de presse. Normalement, les scientifiques ne présentent pas leurs résultats dans une conférence de presse. C'est absurde, ça. On les présente dans une revue scientifique où ils ont pu être passés par le jugement des pairs, etc. Mais là, il y avait une conférence de presse et l'université a annoncé: ces brillants messieurs ont inventé la fusion froide et nous allons financer un institut pour continuer la recherche et pour commercialiser les produits. C'est-à-dire commercialiser l'énergie du monde entier de l'avenir, hein. On voit là, il y a deux critères qui interviennent dans cette expérience. Il y a le critère épistémique que les scientifiques seuls sont capables d'appliquer, et un critère commercial. Hein, si les deux chimistes peuvent satisfaire les deux critères, ils sont riches et fameux, ils ont le prix Nobel, ils ont des milliards de dollars, tout va très bien. Mais si un des critères ne marche pas, ils sont foutus. Et effectivement, le critère scientifique n'a pas marché. Parce que personne, ou très peu de gens, pouvaient reproduire l'expérience. Et l'Institut a dû fermer. Il y avait quand même une sorte de zombie science qui a duré plusieurs années, mais c'était vite fini. Alors, j'ai pensé à ça. Il y a quand même d'autres exemples intéressants où les deux critères entrent en action en même temps. Et c'est ça qui me semblait caractériser la technoscience dans un sens restreint et intéressant, pas simplement polémique. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples, surtout par exemple dans l'industrie pharmaceutique, où la recherche et le commerce, c'est la même chose. Hein. Ce n'est pas deux choses différentes. La recherche essaie de produire un prototype d'un produit commercial, exactement comme le bassin d'eau des deux chimistes. C'était en même temps une expérience physique et un prototype d'un réacteur qui allait power the world. Hein. Et donc, j'ai proposé dans un article que j'ai publié il y a plusieurs années qu'on définit la technoscience comme le domaine où l'action scientifique et l'action commerciale sont identiques. C'est la même chose dans les deux cas. Et les deux critères doivent être satisfaits pour réussir. Einstein n'avait pas de satisfaire un critère commercial ou militaire pour proposer la théorie de la relativité, pour le faire accepter. Hein. Il se trouve que ça a permis de créer la bombe atomique, mais c'est une action entièrement séparée de son activité scientifique. Mais dans le cas de l'énergie de la fusion froide, ou dans la recherche pharmaceutique, ils sont chevauchés, on dit, oui, imbriqués. Enchevêtré, oui. Ensuite, j'ai pensé à, avec le développement du mouvement contre le changement climatique, j'ai pensé qu'il y a quand même d'autres domaines où il y a cette identité, mais qui sont pas structurés par le commerce, mais par le public. Et dans le cas, par exemple, de la lutte contre le changement climatique, il y a un mouvement social, il y a un mouvement scientifique, il y a une action scientifique qui sont coordonnées. Hein, comme j'ai dit avant, la recherche sur le climat est orientée, organisée autour de seuils qui sont, et ces seuils sont déterminés par les demandes publiques et non pas par la science. Les scientifiques, évidemment, pourraient imaginer tout ça tout seuls, mais sans le soutien du public, sans la politique, hein, ça n'arriverait à rien. Ça serait encore une spéculation scientifique dans les revues. Mais ça devient actif dans le monde et ça transforme les stratégies industrielles à cause de cette pression politique qui rend significatif pour le monde des seuils identifiés par les scientifiques. La recherche sur le climat est entièrement orientée par ce phénomène politique. Hein. Si, sans quoi, il resterait un domaine très spécialisé qui occuperait plusieurs milliers de personnes dans le monde et on en parlerait pas. Hein. Et donc, on voit la science et le public sont entrecroisés d'une façon qui ressemble un peu à cette technoscience pharmaceutique ou de fusion froide. Et donc, je généralise le concept pour tenir compte de phénomènes d'intervention publique dans la science qui ressemblent à... Parce que là encore, il y a deux critères qu'il faut satisfaire. Quand on regarde l'histoire de l'écologie, on voit que effectivement l'écologie, dès ses débuts, doit satisfaire les deux critères, un critère scientifique, épistémique, et un critère public. À l'origine, il y avait un Sud-Africain qui a proposé une théorie de l'écologie basé sur l'idée que la nature était une sorte de super-organisme. C'était une théorie holistique de l'écologie, où tout était lié. Et puisqu'il était sud-africain et blanc, des éléments racistes sont entrés dans sa conception de cet super-organisme. C'était organisé autour de formes hiérarchiques, avec l'homme au sommet. Et ça, c'était la première hypothèse écologique qui a eu beaucoup d'influence pendant les années 20 et les années 30. Il y a eu une opposition matérialiste à cette idée de la part d'autres chercheurs qui ont proposé une écologie, comme on l'entend aujourd'hui, basée sur des mécanismes causaux, où il n'y avait aucun aspect hiérarchique, aucun aspect holistique, organique, mais plutôt des interactions mécaniques, de mécanismes causaux entre les espèces. Et c'est cette écologie-là qui était compatible avec les idées, d'une part, qui a eu des résultats épistémiques les plus convaincants, et d'autre part, qui était compatible avec les idées modernes sur les droits de l'homme, sur la nature de la société, les idées démocratiques. Et donc, on voit déjà à l'origine de l'écologie un problématique des critères dualistes dans le choix de scientifique. Je vais très vite conclure. Moi, je pense que ce que je dis là de la technoscience peut être contextualisé d'une façon beaucoup plus vaste, parce que toute l'organisation de la vie moderne dépend des disciplines techniques. Donc, la problématique scientifique se généralise maintenant dans un sens, une sorte d'analogie pratique, hein, parce que partout, il y a des disciplines techniques qui s'imaginent scientifiques, qui se présentent sous des formes scientifiques, par exemple les théories du management, l'économique, la science économique, l'architecture, tout a ces textbooks construits comme les textbooks de la physique ou de la chimie. Tout le personnel est engagé dans un apprentissage, des acculturations. Donc, le monde, dans tous ses aspects, devient technifié et scientisé. Et donc, les réflexions sur la technoscience ont une portée beaucoup plus générale. Hein. En dehors des sciences, l'idée qu'il y a des mouvements sociaux qui ont des effets sur la façon dont les lois sont formulées, sur la façon dont les gens vivent, sur l'habitat, etc. Tout ça, c'est normal, hein. C'est pas extraordinaire comme dans le cas des sciences. Nous acceptons que c'est normal que les gilets jaunes protestent leur pauvreté. Ils n'ont pas besoin de passer par une science pour interpréter leur expérience de 800 € par mois. Mais en même temps, il y a une interface là, parce que ça... Quand on regarde à la télé l'histoire des gilets jaunes, c'est la science économique qui structure tout. Hein. Moi, je me souviens, j'étais étonné par la clarté de la chose. On réduit les taxes sur les riches par 3 milliards de dollars, d'euros, et on augmente les taxes sur les pauvres par 3 milliards d'euros, et tout s'équilibre, c'est formidable. Mais la clarté quantitative de l'événement ressemble tout à fait à une problématique scientifique. Et ça se fait partout dans le monde moderne. On pourrait imaginer une sorte de généralisation de la problématique dont je vous parle. Partout, il y a des potentiels qui sont plus ou moins favorisés par la nature, comme on le construit, hein, avec nos technologies, par la société, avec les institutions, par l'économie, avec les procédures de production, etc. Et ces potentiels sont articulés par la société en général, dans les mouvements sociaux, par l'opinion publique, exprimée à travers la discussion, par exemple, beaucoup de discussions en ligne, ou par le vote. Et donc, nous sommes dans un sens, dans un monde vécu, plein de potentialités, hein, qui est dans quelque sorte déréifié Il devient fluide devant nos interventions, nos actions, nos protestations. Nous pouvons le transformer. Il n'est pas simplement l'objet de la science, la matière en motion, l'objet réduit à des éléments mesurables et contrôlables. Il est maintenant un objet beaucoup plus riche, hein, qui contient des potentialités que nous pouvons identifier et essayer de réaliser par notre action. Et c'est cette déréification du monde qui m'intéresse et qui nous donne une idée d'un autre avenir. Hein, un avenir qui ne serait pas dominé par le système capitaliste actuel. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai donné assez de points de repère pour qu'on ait une bonne conversation.